Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour Drew.
Et nous accueillons aujourd'hui Benoît Bagnier de la boîte de jeux. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Nous commençons nos interviews au Festival de Cannes par un petit fil rouge, c'est-à-dire que nous allons te poser des questions pour connaître ton passé de joueur. Et attention chers auditeurs, il y aura peut-être un mix entre les questions et les réponses. À vous de trouver quelle réponse va avec quelle question. Alors Benoît, quel est ton jeu Madeleine de Proust?
Je pense que c'est... J'y joue plus, mais je pense que c'est Captain Sonar que j'aime beaucoup aussi, parce que j'ai beaucoup joué avec mes amis, mais on était petits à l'époque, et c'était des heures de négociations vraiment très dures, avec des négociations qui sortaient du jeu. Je te promets qu'à la prochaine partie, voilà, et ça a été mon début de joueur, voilà. Et donc ça m'a beaucoup marqué, ça, et un autre jeu, Hit. Hit, c'est un jeu incroyable.
Hit, le petit jeu de cartes.
Non, Hit,
le jeu de course de voiture.
Ok.
Et ça, j'ai beaucoup joué avec mes parents aussi. Il fallait laisser gagner mon père parce que sinon il s'énervait. C'est mes deux jeux qui m'ont vraiment lancé dans le jeu de société il y a très longtemps.
Quel est ton genre de jeu préféré?
Le jeu de cartes. Moi, dès que je vois un jeu sur n'importe quelle publication Facebook et tout, il y a une carte avec une image et un effet en bas. Le jeu, il m'a toujours l'air super. Il n'est pas toujours super, mais ça, vraiment, c'est direct dans ma tête, ça allume quelque chose de... Parce que je suis joueur de Magic, comme beaucoup de gens dans le monde du jeu. Et vraiment, le jeu de cartes, c'est un truc de fou, quoi. J'adore.
Quel est ton jeu préféré dans ce genre?
Manhattan, qui avait gagné un Spiel, je crois.
Peux-tu nous citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque et dont tu as honte?
Ça, c'est rude.
Si tu cites un des jeux que tu as édité, ça va être compliqué.
Ouais, mais même, je trouve que vis-à-vis de... voilà, je sais pas si j'en ai vraiment un. Vraiment, en plus, c'est... Parce que j'ai une rotation de ludothèque où je donne beaucoup de jeux à une ludothèque, justement, qui les prête. Comme ça, je me dis, quand je veux y retourner y jouer, je peux le louer. Et du coup, en fait, je fais vraiment... J'en garde pas énormément, en réalité. Je sais pas si j'ai un... Là, je vais pas vous trouver un jeu dont j'ai honte. Il y a des jeux auxquels je joue pas... parce que c'est plus ma cam, mais je vais choisir Dominion, même si j'y joue plus, parce que ça a été une période de ma vie où j'ai vraiment beaucoup joué à Dominion sur la première boîte, et ça m'a aussi, en fait, ça m'a ramené dans le jeu de société alors que j'avais arrêté après ce Catan et Manhattan, et donc ça m'a vraiment ramené dans le jeu de société Dominion, donc j'ai pas mal poncé.
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel prends-tu?
Alors faut avec des gens ou tout seul?
Comme tu veux. Tu pars tout seul en vacances?
Peut-être que ça serait reposant des fois. Après, ma compagne ne joue pas. Alors, c'est un peu... En termes de jeu, c'est comme partir tout seul. Je prendrais sûrement It's a Wonderful World, pour dire vrai. Mais bon, je ne vais pas citer un des miens. Je pense que si on part comme ça entre amis, je prendrais des cryptos. Voilà. Mais qui est peut-être un peu plus difficile quand les gens ne jouent pas.
Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel prends-tu?
Que je connais pas. Magic. Après, si on s'écarte de Magic, et sans citer un des miens, parce que vraiment sans faire de pub, j'aime beaucoup It's a Wonderful World. C'est un jeu auquel je joue énormément sur BGA en vrai. Je pense qu'en jeu de société... un jeu qui s'appelle Arrête-moi si tu peux, sur le thème du film, un proto que j'ai chopé là, que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'y rejouer pour vérifier si cet engouement se confirme.
Ok. Tu avais prévu un méga tournoi de Challengers à 8 et tous tes amis t'ont lâché. Vous vous retrouvez à 2. Tu sors quel jeu?
Je pense que je prendrai Codename, parce que je pense que c'est assez simple à sortir, ça marche toujours bien et on n'a pas de... Parce qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Les gens, ils passent un bon moment. Voilà. Après, s'ils sont un peu joueurs, je prendrai Intrigue pour que vraiment ce soit chouette les soirées et que petit à petit on se déteste. non, j'aime beaucoup Intrigue et je trouve que c'est chouette avec les bons joueurs, quoi.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer?
Inventer. C'est pas facile ces questions parce que sur l'ensemble des sorties de jeux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très chouettes. Je pense que j'aurais aimé inviter qui a inventé les colons de Catan, qui est un de mes jeux qu'on sort régulièrement au week-end. Non, je vais choisir un autre. J'aurais aimé inventer Tsolkin. Non, en fait, là j'ai essayé de dire des jeux, mais en fait, normalement, je réponds toujours Tsolkin.
Oui.
voilà, c'est.
Pour ceux qui n'avaient pas suivi, réécoutez l'interview d'il y a quelques années. il y a déjà du
mais
Tsolkin
là, ouais,
dedans.
Ouais, Tsolkin, voilà. Là, à un moment, il faut que je réponde Tsolkin quand même.
c'est bon, c'est fait, on peut cocher.
Et pour finir, à quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
J'aimerais jouer à un proto que j'ai chopé là, de un jeu qui s'appelle Tsolkin.
Oui.
et en plus, vraiment oui, je pense que le jeu est incroyable dans sa création. Mais,
Ok, merci.
On va passer donc à l'interview plus traditionnelle maintenant. Comme on a pu le dire juste avant, donc, tu as déjà participé à une interview officielle de Cannes, c'était en 2020, à l'occasion de la nomination de It's a Wonderful World. Depuis, donc, pas mal de jeux sont sortis à la boîte de jeux, notamment Demio, qui à l'époque était en préparation et arrivait dans les boutiques. Quel regard as-tu maintenant sur la vie de It's a Wonderful World post-nomination à l'As d'Or ? Est-ce que c'est un jeu qui dure dans le temps ?
Ouais, c'est. On a deux jeux comme ça qui ont une vie relativement longue après. Voilà. Donc, c'est Cerber qui était sorti un an avant It's a Wonderful World dans le game, et donc It's a Wonderful World. Et It's a Wonderful World, il a aussi la chance, l'opportunité d'être un jeu qui fonctionne bien sur BGA, donc avec une grosse communauté de joueurs. Et donc, c'est un jeu qui continue à très très bien fonctionner. Voilà, on a des productions régulières, je sais pas combien on est, peut-être 17, 18, 19, 20, on doit être autour de 150 000 boîtes aujourd'hui dans le monde. C'est à la louche, hein, parce que je suis pas ça au jour le jour. Mais il a aussi toute une vie sur BGA. Et ça, c'est super chouette parce que. Moi, je m'y suis remis en fait sur BGA. Je suis allé jouer contre les joueurs. Ils ont un niveau incroyable. Dès que je suis un peu monté, il y en a qui jouent vraiment très très bien. Ils m'ont même réappris à jouer au jeu alors que j'avais l'impression d'avoir quand même un bon niveau. Donc ça, c'était, enfin, de voir qu'il y a des joueurs qui ont poncé le jeu, qui jouent aussi bien, qui ont exploré des stratégies plus loin que ce que nous on avait fait. C'est super agréable. Et donc c'est vraiment un jeu qui vit. Moi, j'espère qu'il va continuer. Et qui vit dans plusieurs pays, et ça c'est assez intéressant parce qu'un Cerber que j'évoquais juste avant, on le vend principalement en France. C'est un jeu qui vit très bien en France, mais en fait, dans le reste des pays, c'est plutôt éteint. Là où It's a Wonderful World, il marche aux États-Unis, il marche dans les pays nordiques, il marche dans différents pays comme ça, et donc c'est chouette de le voir vivre comme ça dans le temps, quoi.
Et donc, depuis cette dernière interview, quel autre jeu avez-vous pu éditer à la boîte de jeux et qui renouvelle un petit peu cette. Votre gamme, ça reste toujours It's a Wonderful World, votre produit phare, ou il y a d'autres étoiles comme ça ?
Alors oui, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne vit plus d'It's a Wonderful World, puisque évidemment les jeux, enfin, il y en a qui arrivent à se maintenir et à augmenter, mais plutôt ils ont tendance à diminuer. On a fait 2-3 belles années sur It's a Wonderful World, 2. Aujourd'hui, on a des jeux comme Nymalia, par exemple, qui a vraiment bien marché l'année dernière, qui va d'ailleurs arriver là sur BGA. Les Tribus du Vent aussi, qui a très bien marché, mais ça, Nymalia, c'est un jeu un peu plus dans le temps, mais sur les gros jeux à plus de 40 euros, on a quand même une baisse des ventes assez rapide en réalité. C'est des jeux et un public qui tourne assez vite, en fait, qui change assez vite son idée, et donc, qui aime la nouveauté, c'est plus ça en fait. Donc il va chercher la nouveauté, il achète un jeu, il passe, il achète un jeu, etc. Et donc même nos partenaires, ils font pas des multiprints de ces jeux-là, pas tant que ça en fait. Nos partenaires export, quand je dis nos partenaires, c'est les autres pays en fait. Donc on a celui qui a le plus de chances de se maintenir comme ça, c'est Nymalia aujourd'hui, mais parce que son format, c'est un petit jeu à 17 euros, etc., le permet, voilà. Et après, dans ce qui arrive, on compte beaucoup sur une gamme de jeux qu'on lance là qui s'appelle Backstories, qui est un jeu d'aventure narratif coopératif avec un système un peu qui rappelle les jeux de point and click, un peu de jeux vidéo. Et en fait, ça fait partie des jeux où on pense que on aimerait en tout cas qu'il ait une vie dans le temps et vraiment travailler la gamme et donc la durée, enfin, les faire vivre longtemps en boutique.
On entend justement que le marché change et que les consommateurs vont chercher des jeux peut-être moins chers, peut-être moins gros. Est-ce que tu fais aussi ce constat ?
Oui, alors, je pense que le marché, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le jeu de société. Il y en a qui sont là depuis avant moi, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, il a évolué en permanence. Alors, ça s'est accéléré, ces mutations-là, mais c'est des évolutions qui sont, je pense, aussi conjoncturelles. Avec l'inflation, avec ces choses-là, donc ça peut pas, on peut pas vivre dans une bulle qui n'est pas impactée par ça. Donc effectivement, sur les dernières années, la dernière année, on a En termes de volume de vente, on a senti un vrai coup sur les jeux à plus de 35 euros, qui était plutôt ce qu'on faisait, avec des baisses de volume sur un It's a Wonderful World. Alors, il y a le temps aussi, mais des baisses de 70% sur une année. Donc, par rapport à l'année précédente, c'est quand même très, très violent. Et des jeux à 40-45 euros qui ont du mal à se placer. Donc, il y en a toujours un qui arrive à... par exemple, les Tribus du Vent a très, très bien marché. Mais un Evil Corp qu'on a fait en fin d'année a beaucoup moins bien marché. Bien sûr, il y a probablement le jeu qui séduit moins le public. Je pense que quand un jeu ne marche pas, il faut aussi savoir se remettre en question et dire qu'on a raté quelque chose. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bon. Ça veut dire que nous, dans notre travail de communication, notre travail marketing et dans notre travail éditorial, on a pu rater quelque chose. On ne l'a pas su l'adresser au bon public. On n'a pas su bien expliquer aux joueurs ce jeu-là. Et des fois, je suis assez déçu de ça parce que j'ai l'impression d'avoir trahi les auteurs qui nous ont fait confiance quand ça se passe. Mais il y a aussi des choses conjoncturelles qui jouent. Et c'est vrai que là, à Vichy l'an dernier, donc qui est un salon public mais qui a une partie pro, on sentait vraiment que les boutiques, elles s'étaient plus attirées et elles avaient vraiment envie des jeux à 20-25 euros et qu'au-delà de 30 euros, c'était déjà on verra si on a de la demande. Et ça, ça fait que là, sur le linéaire de notre distributeur BlackRock, par exemple, là-haut, il y a 49 jeux, je crois, présentés pour les 8-10 mois qui arrivent. Et là-dedans... je pense que s'il y a un jeu qui dépasse 30 euros, je crois que c'était le max. J'ai passé vite fait et il me semble qu'il n'y avait même pas un jeu qui dépassait 30 euros. Et donc c'est assez symptomatique là où il y a deux ans, il y avait des jeux à 35, 40, 45 ou même plus qu'on présentait nous, que présentait Catch Up, que présentait Gre Game. Voilà, donc il y a des choses, peut-être que c'est aussi l'année qui fait qu'ils ont choisi des plus petits jeux. Mais même nous, là, on présente deux jeux, un à 20, un à 15. On sent quand même que va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits jeux qui vont arriver là. Et du coup, aussi beaucoup, je pense, des jeux qui vont très bien marcher, mais certains qui vont vraiment se planter. Et c'est un peu rude pour tout le travail. Mais il y aura la demande de jeux moyens, intermédiaires, experts, elle existe et elle va revenir. Donc c'est des vagues. Et je trouve qu'en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur, il faut savoir... s'adapter, sentir le vent et à la fois aussi avoir une conviction sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on veut faire du jeu intermédiaire, il ne faut pas abandonner parce que le marché ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut peut-être plus d'exigence dans ce qu'on fait, moins, mieux. J'ai l'impression de parler comme Mathieu. Mais il a raison sur ça. C'est la tendance là, qu'on a appliquée cette année où on a décidé, on avait un line-up qui était prévu sur deux ans. Et en fait, de quasiment le cuter de moitié et de dire on va faire les jeux un peu moins, mais on va vraiment faire un gros, gros travail de finition, de marketing, de communication et de présentation aux boutiques, parce qu'une boutique qui ne connaît pas un jeu, elle le vendra moins bien que si elle a pu l'essayer. Donc là, ici, on présente deux jeux qui sortent en juin, donc c'est 4 mois à l'avance, avec des exemplaires finaux. Enfin, c'est un travail aussi d'anticipation et de ne pas toujours être dans le rush et d'avoir les jeux prêts, pour que en fait ils arrivent dans les meilleures conditions. Peut-être après ça marche pas, mais en tout cas on leur a donné les meilleures chances pour marcher.
Tu peux nous citer les deux jeux ?
Oui. Donc on a Backstories, donc c'est un jeu d'aventure narratif. On a le premier scénario là qui arrive début juin normalement en boutique, où on a eu un très 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 bon accueil ici. Alors il est pas sur la partie publique parce qu'un jeu narratif, on se le spoil assez vite, c'est un peu compliqué. Et on n'a pas souhaité faire une démo parce qu'on trouvait que toutes les démos qu'on créait elle rendait pas hommage au jeu qui a besoin de se mettre en place dans un temps un peu long, sur une demi-heure, une heure. Donc Backstories, les auteurs, je vais quand même citer tout le monde, les auteurs c'est Jules Messot et Anthony Perron, l'illustrateur c'est Cyril Bertin qui a fait un travail formidable, et là le scénario qui est présenté c'est un scénario de Jérémy Ducré et moi-même, voilà. Et on a donc Les Architectes d'Amitis, qui est un jeu deux joueurs, on va dire famille plus, qui a reçu aussi un très très bon accueil, et là j'étais vraiment content, parce que voilà, ça reste du jeu deux joueurs, c'est pas toujours simple. Et c'est un jeu de Romaric Gallonier et Jérémy Ducré. Ça fait trois jeux à la suite qu'on sort de Jérémy Ducré. Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on l'embauche. Il nous coûtera moins cher. Mais voilà, et illustré par Agnès Ripoche. Et donc deux jeux, celui-là, il arrive plutôt fin juin. Et donc, deux jeux plus petits que ce qu'on fait d'habitude, mais qui ont très bien marché, sur lequel on a fait un travail plus approfondi, et je suis vraiment content de ce qu'a fait l'équipe, en fait, l'ensemble de l'équipe de la boîte de jeu, la façon dont on a travaillé avec les illustrateurs et les auteurs. Et je pense que ça va servir ces jeux-là dans le temps et pour leur implantation en boutique.
Et donc tu disais qu'il y a moins de demandes sur les jeux plus costauds, peut-être un levier par les financements participatifs. On sait qu'en général, les campagnes réalisées par la boîte de jeu marchent plutôt bien. Est-ce que c'est un appel d'air quand vous voulez sortir un jeu plus important ?
Oui, mais enfin, c'est une possibilité, mais après, je trouve qu'il y a des jeux qui sont destinés aux boutiques. Là, enfin, comment dire ? Là, on a un jeu, par exemple, qui est un jeu de civilisation avec des cartes qu'on aura probablement l'an prochain, qui est quand même un gros jeu. J'aurais pu faire un case sur ça, mais pour moi, le jeu, il avait le potentiel. En fait, il méritait d'avoir vraiment une sortie boutique et d'être un jeu boutique. Donc, en fait, on a travaillé pour qu'il soit à 45€, qu'il puisse vraiment que ce soit un jeu boutique et qu'il passe pas par KS, parce qu'on pense que le jeu, il doit trouver sa place en boutique. Et quand on fait des KS, il y a certaines boutiques qui boycottent, et du coup, des fois, sur un gros jeu à 80€, comme From the Moon ou ce genre de choses, c'est pas des jeux où on a des gros volumes de vente en boutique. Donc, et nous, on a des grosses dépenses. Donc, le Kickstarter se justifie à ce niveau-là. Pareil, quand on fait un Malia qu'on va livrer cette année, qui est un jeu complètement pharaonique, bon, bah, c'est des volumes faméliques en boutique. KS a de la pertinence, mais mon truc, c'est pas juste de dire je mets des jeux sur KS en fait. Il y a des moments où les jeux, en fait, je veux qu'ils vivent en boutique, et du coup, bah, on travaille à ce que bah, on puisse aussi se passer de la plateforme de financement. Pour chaque jeu, en fait, il y a un choix. Il faut aussi trouver le bon public. Moi, des fois, sur KS, c'est un public très particulier qui s'est aussi dessiné maintenant, qui s'est affiné. On va trouver plus de jeux à méritrage, des jeux à figurines ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que le reste ne peut pas vivre, mais ça veut dire qu'il faut faire, il faut aussi leur adresser les bons jeux. Enfin, voilà, c'est tout un travail de connaissance du marché et de compréhension des professionnels et des joueurs. Et pas juste de dire, bon, bah, mon jeu, je vais le financer sur KS, je vais lever tant et ça va être OK. Parce que ça, c'est à mon avis, la mauvaise façon de le faire. Je me suis un peu perdu dans ta question.
Non, c'était bien. Tu y as répondu au global, pas de problème. Et justement, tu citais Malia, donc votre dernière campagne la plus importante, qui est donc en cours de fabrication. Où en êtes-vous dans le développement ?
Alors, on a fini l'intégralité du jeu. Il faut que je réécrive les règles. Donc, on a des versions, mais il faut que j'y repasse dessus. C'est pas mal de travail, parce que c'est quand même un gros bouquin de règles. Même si le jeu est pas en soi compliqué, mais pour rien laisser au hasard sur un jeu comme ça, pour que les joueurs s'y retrouvent tout le temps, il faut bien organiser les règles. Donc là, les règles, elles ont été écrites déjà 3 fois. Et là, c'est une réorganisation intégrale. Mais quand tu réorganises, tu réécris. Et donc, c'est assez long. Donc, on en est là. Dès que j'aurai fini les règles, bah, le jeu partira en fabrication. Et après, bah, son chemin normal jusqu'à la livraison à la rentrée quoi, de 2024.
Voilà. 2024.
Je donne pas de mois parce que comme ça, la rentrée, si c'est octobre, c'est encore ouais. OK. Voilà. Non, mais le gros du travail est terminé et ça a vraiment soulagé l'équipe aussi parce que Malia, il faut se rendre compte de ce que c'est. Enfin, personne ne peut se rendre compte. Je pense qu'on aurait mis la moitié du jeu dedans au même prix, personne ne l'aurait vu. Là, c'est débile tellement il y a de trucs dedans. On en a encore parlé récemment avec 4 univers. En fait, ils ont tellement voulu donner à leur public, tellement ils se sont lessivés à faire ça. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont écrit quand même 1 500 000 signes. C'est monstrueux. Je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, c'est le tome 1 du Seigneur des Anneaux. Dans leur livret, leur truc. Et ça, c'est juste la partie narration. Mais il y a du dungeon crawling. Le jeu, c'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est... Mais...
Énorme.
Mais c'est pharaonique, en fait. Je pense que si on n'aime pas l'amour du sport, on fait pas ce jeu, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement débile de se lancer là-dedans. Je dis ça comme ça, avec tout le recul qu'on a maintenant, mais... Et donc, le finir, c'était en français et en anglais. On était content quand on a fermé le dernier livret et qu'il reste que la règle. J'avoue que, voilà, c'est un... Pour toute l'équipe qui a travaillé, donc pour 4 univers, donc le studio qui a fait le jeu, qui a passé des heures et des heures, et pour mon équipe à moi qui a passé des années, enfin, eux ils y ont passé des années, mais voilà, et qui travaillent depuis des années, les graphistes qui commencent à pouvoir faire autre chose que du Malia, ils sont assez contents, et je pense que voilà, ça va leur faire du bien de se lancer dans d'autres jeux.
Tu parlais de l'équipe de la boîte de jeux justement, vous êtes combien maintenant ?
Alors on est 7. Ce qui est une grosse équipe pour un éditeur, en fait, si on regarde, bon, si on sort des très 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 gros éditeurs. Donc, il y a moi qui dirige le studio. J'ai 2 graphistes, je vais dire juste les prénoms en fait, ça ira plus vite. Donc Benjamin et Jeanne, qui se répartissent les activités graphiques et qui font du suivi de prod. Ensuite, j'ai 2 personnes qui m'accompagnent dans le travail éditorial, donc Grégory, qui était l'auteur d'Outlive à l'époque, qui travaillait avec moi sur pas mal de projets, suivi d'artistes, développement de jeux, et Violaine, qui arrive en dernier, là, qui m'aide à... qui fait un peu un travail d'assistante éditoriale, mais je trouve que c'est pas valorisé, et qui fait aussi tous nos réseaux sociaux, donc tout le...
La com.
Voilà, ce taf que moi je considère un peu chiant, mais qu'il faut faire. On est dans un monde où on peut pas s'en passer, quoi. On est obligé. Et après, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est RH et logistique, et tous les suivis administratifs, etc. Donc c'est un autre Benjamin. Et on a une personne qui s'occupe des relations presse et de la réponse à tous les emails et les choses qu'on reçoit comme ça, donc Thibaut. Donc ça fait 7 personnes.
L'équipe a évolué. La dernière interview, vous étiez 4 et surtout, vous n'aviez pas encore été racheté. Le rachat par Hachette date de quand ?
Alors, on a commencé... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont racheté de manière effective. Je pense que c'était février 2022, je pense. C'était ça. Parce que ça, c'est un an de discussion, négociation, etc. Donc, je crois que c'était ou mars 2022. À ce moment-là, on était 6. Entre-temps, on a fait une embauche. Voilà. Et donc, tu me dis qu'on était 4 en 2020. C'est qu'on a une croissance beaucoup trop élevée. Il faut que vite que je m'arrête de faire ça. Parce qu'à un moment, nos bureaux tiendront plus. Et puis, notre économie, elle est quand même tendue. Enfin, le monde du jeu est tendu. Et en plus, ces deux dernières années, elles ont été particulièrement tendues un peu pour tout le monde. Donc, il y en a pour qui ça a très bien marché. Mais on sent que ça se resserre aussi parce qu'il y a plus d'offres, plus d'acteurs. Donc, voilà. Mais à 7, on est bien. Et je trouve que l'équipe, elle fonctionne vraiment bien. Et ça, c'est tous les jours, c'est un plaisir, quoi, d'aller au bureau.
Ça a changé quoi, le rachat pour toi ?
Alors, le rachat... Ça n'a pas changé grand-chose pour tout dire, sauf que ça nous a fait faire un bon gros bond en termes de structuration, notamment de structuration comptable, puisqu'avant, comme n'importe quelle PME, enfin petite entreprise qui s'est créée entre potes, on faisait ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire notre comptabilité et nos bilans annuellement. Donc maintenant, pour ceux qui suivent un peu, enfin qui font là-dedans, maintenant on fait des closings à J+2 mensuels. Ça veut dire que tous les mois, deux jours après la fin du mois, on doit avoir fait le closing. Tout le boulot qu'on faisait une fois dans l'année, quoi.
Donc c'est mensuel maintenant.
Ouais, ça c'est appartenir à un gros groupe, mais ça permet de se structurer aussi dans sa vision comptable, c'est-à-dire d'avoir des données très précises de où on en est, où on va, obligé à faire des budgets très très précis mensuellement, en amont, en aval, les vérifier. Et ça permet d'avoir un pilotage de sa structure qui est beaucoup plus fort. Ça c'est vraiment, mais ça a demandé beaucoup de travail, mais par contre. Ça permet de beaucoup moins piloter au doigt mouillé sur est-ce que ça doit fonctionner comme ça, etc. Donc ça, c'était très bien. Et après, ce que ça nous a apporté, ça, c'est la partie qui est à la fois bien, mais qui a demandé beaucoup de travail, mais ça nous a apporté des services juridiques, des services RH, des chargés de fabrication et tous des gens hyper gentils que Larousse, en fait, parce que c'est la branche de Larousse, nous met à disposition et qui nous permettent. Nous, on est quand même 7, on a quand même un certain chiffre d'affaires. Et à un moment, ça devient un peu tendu quand on est tout seul. Moi, j'ai monté ça au départ. C'était pas mon métier de gérer des entreprises. Et donc, là, d'avoir des gens pour backer tout ce qu'on fait, pour nous expliquer des règles, des normes, préparer nos contrats, c'est vraiment un gros support. Et après, dans l'activité, ils se mêlent absolument pas de ce qu'on fait.
T'as une liberté totale de
oui.
Choix des jeux.
Mais ça, c'est une politique d'Hachette qu'ils ont aussi dans le livre, en réalité. Et qui nous avait dit à l'achat, et que moi je me disais, on verra si c'est la réalité. Et je confirme, c'est leur politique, c'est une galaxie de PME. Et du coup, chaque PME doit faire son travail, et comme avant. Et s'ils l'ont acheté, c'est parce qu'elle marche, elle doit continuer à marcher. Et vraiment, ils s'en mêlent pas. Et même, c'est presque de dire, mais nous, on connaît pas le métier. On vous a acheté pour que vous fassiez votre métier, faites-le. Et on vous donne tout le support pour faire ça. Et voilà, et continuez. Et si vous avez besoin d'aide, on vous aide. Et voilà. Donc vraiment, pour la partie éditoriale et le travail d'éditeur, ils viennent absolument pas là-dedans. Même sur les partenaires, par exemple, à l'export, ils ont Hachette US, ils ont Hachette Benelux. Si moi, demain, je décide que je veux pas travailler avec Hachette US, d'ailleurs, ça m'arrive, parce qu'on a un partenaire qui est très intéressé, il n'y a aucun problème. Nimalia, dont je parlais, c'est Lucky Duck, États-Unis, qui le distribue aux États-Unis. Il n'y avait pas de sujet, c'était pas... on a vraiment zéro contrainte et ça c'est très agréable. On avait une crainte en attendant un groupe et d'avoir très peu de contraintes comme ça et de rester très libre de ce qu'on fait, c'est vraiment chouette.
Et justement, le fait d'avoir été racheté par Hachette, qui a racheté pas mal d'autres entités, d'autres maisons d'édition, est-ce que ça vous a rapproché de ces maisons ? Est-ce qu'il y a une communication ?
On a un codir où on se voit assez régulièrement. Après, je dirais pas que ça nous a rapproché. Moi, ça m'a fait rencontrer des gens qui étaient moins dans ma galaxie du jeu de société, mais on n'a pas créé spécialement de synergie. On peut échanger des bonnes pratiques, on peut discuter de choses, donc c'est toujours enrichissant. Mais voilà. Après, on a quand même eu le partenariat avec Scorpion Masqué pour leur Kickstarter de Dead Cells qu'on a piloté. Mais c'est presque par hasard. Je pense que même si on n'était pas dans la Galaxie Hachette, ils seraient probablement venus nous voir. Il l'a juste appris par ce biais-là. Mais là, on va en porter un autre cette année pour un autre éditeur qui n'est absolument pas dans la Galaxie Hachette. Voilà. Et du coup, je pense que ça serait fait quand même. Là, pour le coup, on ne crée pas spécialement des synergies. En tout cas, moi, à la boîte de gens, on n'a pas spécialement créé de synergie ou d'échange avec d'autres éditeurs rachetés. Voilà.
Je suis surprise, je reste surprise qu'une grosse maison comme ça ne demande aucune contrepartie quand ils achètent quelque chose. Est-ce qu'ils voulaient votre expertise de KS? Vraiment, ils attendent rien de vous?
Si, c'est pas parce qu'ils ne s'en mêlent pas qu'ils attendent rien. Ils attendent que ça marche. Ils attendent que des titres gagnent des prix. Ils attendent des parts de marché, évidemment. Par contre, moi, je suis assez transparent là-dessus. Depuis le rachat, on a fait 2 années assez mauvaises en termes économiques. Les jeux, il y en a qui ont bien marché, mais économiquement, on n'était pas au top, c'était pas, voilà, vraiment pas top. Ils nous ont rien dit et ils s'en sont. Enfin, c'est même. Non, mais il n'y a pas de problème, continuez. Voilà, donc ils sont aussi sur un temps long, je pense. Je veux pas parler pour eux, c'est toujours compliqué, mais je pense que leur approche, c'est sur un temps long. Ils achètent des acteurs pour prendre des positions, pour évidemment qu'il y a ça. Il y a aussi le fait qu'à un moment, on était chez BlackRock qui sécurise des éditeurs distribués par leur. Parce que si on partait ailleurs. On part avec le catalogue, donc ils sécurisent des positions, mais leur idée, c'est plus d'acheter certains, je vais mettre des guillemets que les gens vont pas voir là, mais des talents, ce qu'on va appeler ça, on leur dit ça pourrait marcher. Je pense qu'ils ont autant, enfin, que It's a Wonderful, ils ont acheté juste l'année après It's a Wonderful World en fait, et je pense qu'il y avait beaucoup ça. Mais après, ils attendent que ça marche, mais si ça marche pas, en fait, en réalité, ils ont. En fait, c'est comme quand on fait des investissements. Ils ont fait plusieurs investissements. Il y en a qui marchent mieux, il y en a qui marchent moins bien. C'est OK. Si tout se cassait la gueule, peut-être ils commenceraient à réviser le truc. Mais là, ils n'en sont pas là. Et nous, on a une totale liberté, même quand ça ne va pas très bien économiquement.
Au sein de la boîte de jeu, on a vu se créer Fearless Frog, qui est une entité dédiée à la localisation. C'est bien ça?
Ouais. En fait, on avait commencé les localisations. Ça devait être à peu près autour de 2020 ou 2021. Avec Dinogenix d'abord, mais c'était un peu plus marginal, mais en fait avec Call to Adventure, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre?
Montana.
Montana, c'était bien avant. En fait, c'était un modèle très particulier où en fait c'était BlackRock. Nous, on supportait juste une partie. Enfin, c'était un modèle très particulier, mais ouais. Mais donc surtout à partir de Call to Adventure, et ça a plutôt bien marché. Donc on le faisait avec un logo, la boîte de jeux and Friends. Ensuite, ça crée des confusions dans l'esprit de certaines boutiques entre les jeux qu'on développe en propre, les jeux qu'on localise où on n'a pas tout à fait le même niveau d'implication et de main aussi pour faire des modifications. Donc on s'est dit, on va créer une marque tiers, donc Fearless Frog, et aussi vis-à-vis des partenaires pour pas qu'ils mélangent les jeux qu'on leur propose, les jeux qu'on localise, qu'ils aient vraiment une approche comme ça, ce qui est plutôt chouette. Mais entre-temps, on a aussi vraiment réduit la voilure en localisation, puisqu'aujourd'hui, notre line-up de localisation, c'est un par an maximum. Donc ça veut dire que même si je vois 10 jeux, on n'en fait qu'un. Là, l'année dernière, on a fait Foxy, qui avait vraiment bien marché, on était très contents. On a fait 2-3 prints en France, ça reste quand même assez bien pour un jeu localisé quand même, avec des volumes très corrects. Et là, cette année, on va faire Inheritors, qui est un jeu de cartes asiatique. Mais on l'a récupéré aux États-Unis parce que, enfin, on a récupéré la version américaine, mais de base c'était un jeu asiatique. Et voilà. Et l'année prochaine, je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, notre enjeu, c'est un seul jeu de localisation par an.
Ok, donc c'est un rebranding de la boîte de jeux and Friends en gros.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est aussi bien séparé. Même nous, dans notre esprit, les choses qu'on fait permettent d'avoir aussi une marque qui existe, qu'elle ne se fasse pas bouffer par l'autre, que les personnes, quand ils travaillent... Enfin, il y a plein de petites choses, mais que les animateurs y soient dédiés. C'est des petites choses qui font que les canaux de communication soient un peu séparés. En fait, ça permet aussi de mieux structurer, nous, la place qu'on donne à chaque jeu.
Et il y a une personne spécialisée au sein de la boîte de jeu qui fait que oui. L'utilisation ?
C'est plutôt Grégory qui suit tout ça, qui choisit les jeux, qui les source et qui les traduit. Après, les équipes de communication, marketing, c'est les mêmes. Mais pour le choix des jeux et tout le travail qu'il y a à faire sur la localisation, c'est vraiment Grégory qui s'en occupe.
Et donc, votre gros jeu du moment, c'est From the Moon, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Comment se passe le démarrage ? Est-ce que tu sens que ça prend ?
Alors, nous, quand un jeu il a un mois, c'est presque plus le jeu du moment, surtout sur ce type de gros jeu. Et c'est ça qui est rude dans le monde du jeu de société, et qui des fois est presque épuisant quand on a mis autant d'énergie. J'exagère un peu parce qu'il est présenté là quand même, voilà. Mais From the Moon, du coup, c'est un jeu qu'on a fait sur KS, qui est sorti là en janvier. Pour ce format de jeu, ça a bien démarré. Après, ça reste des formats où les ventes boutiques, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu à 80 euros quand même. Elles sont jamais énormes. Donc là, on a nos exports qui démarrent. On va avoir les sorties aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. On espère, deux, trois autres pays là qui sont en négociation. Et c'est aussi important ce moment-là où on peut, où les jeux arrivent dans d'autres pays, de trouver des partenaires qui vont les défendre. Donc c'est ce moment-là où on en est. Après, c'est le type de jeu où, sauf surprise, on s'attend jamais à des démarrages à 3, 4, 5 000 boîtes en boutique. On est plus sur des tirages. J'en parlais avec Charles Amir de Super Meeple il n'y a pas si longtemps sur ces gros jeux qui font très très bien là. On est sur des tirages de 2000 boîtes, enfin ce genre de tirage, et quand on arrive à les vendre, on est vraiment super content.
Comment se fait la présentation au public de tes jeux ?
Alors nous, on fait très peu de salons. Donc moi, c'est un non-enjeu. On fait Cannes, Essen et Ludimania parce que c'est local à Dijon. Voilà. Donc là,
Vous faites peu de salons. Hein.
Oui. On a une politique de salon hyper réduite parce que si on se revient sur du jeu un peu plus familial, on ouvrira. Mais des fois aussi, on travaille avec BlackRock. Donc eux, ils y vont avec nos jeux sur des salons, mais nous, on se déplace pas. Et puis après, quand on faisait du jeu qui dure une heure et demie sur un salon, c'est presque un non-sens parce que ça coûte relativement cher, ça prend beaucoup de temps aux équipes et on fait jouer 30 personnes sur un week-end, dont des fois des gens qui reviennent deux fois ou des gens qui ont déjà joué. Et donc du coup, c'est cool, ça fait vivre le jeu, mais ce n'est pas un enjeu de communication fort. Sur les gros jeux, ça va vraiment être de toucher ce public via les réseaux sociaux, via les reviewers ou toutes les vidéos qu'on peut faire ou les interviews comme ça. Pour les jeux plus famille, notre premier enjeu, c'est les boutiques. C'est de toucher les professionnels parce que c'est eux qui achètent les jeux et après, c'est eux qui les revendent. Et leur maillon est essentiel. Donc, c'est de travailler avec eux pour qu'ils connaissent le jeu, pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils sachent où le placer dans leur rayon, comment le vendre. Et ça, qu'ils y aient joué en fait, parce qu'une fois qu'ils y ont joué, ils peuvent savoir ça. C'est pas à nous de leur dire comment le faire. D'ailleurs, je ne saurais pas quoi leur dire. Mais du coup, on place assez peu de sorties en fonction des salons. Il n'y en a qu'un seul, c'est quand même Essen. On essaye d'avoir une nouveauté en anglais, mais c'est même pas un enjeu incroyable si j'en ai pas une année. Alors Essen, il y a un tout petit truc, c'est qu'on fait des ventes et que les ventes, elles sont quand même importantes. Donc avoir une nouveauté, ça permet d'un peu de financer le salon. Mais moi, sur la plupart des salons, c'est super que les joueurs jouent au jeu et je veux pas paraître... Mais notre enjeu, il est à l'espace pro. Il se passe tout là, quoi. Et ici, il y a une image de marque qu'on défend à travers le stand. C'est cool quand les joueurs jouent et qu'on a leur retour parce qu'aussi, on sent, tu vois, si le jeu y prend, comment... Tu vois, quand on avait la queue, là, devant les architectes d'Amitis, tu sens qu'il y a quelque chose qui est cool. Donc ça fait plaisir. Mais tout l'enjeu, c'est de le montrer à des professionnels qui vont ensuite le porter vers les joueurs.
Et donc, quelles sont tes envies pour le futur? Puisque la boîte de jeu a été rachetée, tu es directeur maintenant, mais plus propriétaire. Est-ce que tu te vois continuer à long terme dans la société? Ou est-ce que tu te vois sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde?
Non, ça, non. Déjà, j'aime pas trop la plage. Aujourd'hui, j'ai encore des parts. Et tous les associés ont encore des... Enfin, pas tous, parce qu'il y en a un qui est parti, mais la plupart des associés ont encore des parts, même si Hachette est majoritaire au sein de la société. Moi, mon futur, c'est... Je sais pas ce que ce sera. Les choses évoluent très vite. Il y a 2 ans, j'avais pas vendu, et il y a moins de 6 ans, j'étais pas salarié de la boîte de jeux. Donc, à court terme, en tout cas, c'est de continuer... Et j'ai l'énergie et l'envie de porter les jeux qu'on fait, en fait. C'est pas la société, en fait. C'est vraiment les jeux qu'on a, les auteurs qu'on a, avec qui on travaille, de les amener le plus loin possible. J'aimerais bien un jour avoir un prix, mais... j'entends un As d'Or ou un Spiel. Bon, ça, on va moins... Et je pense que ce serait quelque chose de chouette. Et en fait, pas tant pour moi, pas tant pour la boîte de jeux, mais pour monter avec un auteur. Enfin, parce que c'est des gens avec qui on travaille longtemps. Il y a une relation qui est forte et je trouve que ce moment-là de tu vois, j'ai bien aimé la cérémonie quand Mathieu y monte, le travail qu'il fait avec le jeu japonais, il fait parler son auteur, toute cette relation-là, ou même Catch-Up avec qui je m'entends très bien, la relation qu'ils avaient avec Johan et Corentin, et enfin, je trouve que c'est des moments importants et j'aimerais bien avoir ça un jour pour vivre ce moment. Mais après, surtout, mon truc, c'est vraiment de faire des jeux que les joueurs apprécient. Moi, j'adore faire des jeux, j'adore créer des jeux. J'aime pas les vendre. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Tous les moments, on doit dire mon jeu, il est super, on doit faire le marketing et tout ça. Il faut le faire, on est obligé parce qu'il y en a tellement. Mais c'est vraiment un moment qui correspond à moi. J'ai envie de te dire, bah, j'ai fait ce jeu, tu joues, tu l'aimes pas, c'est un truc, mais j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas envie de te le survendre, quoi, tu vois. Moi, je l'aime ce jeu et toi, peut-être, tu l'aimeras pas, mais je l'ai fait parce que je l'aime et il y a aucun moment où je le regrette ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc, moi, mon envie, c'est de pouvoir continuer à faire des jeux. Et je suis un peu content aussi dans la vente de faire un peu moins de trucs chiants d'administratifs et de pouvoir faire un peu plus de jeux. Ça, c'était important et de retrouver du plaisir vraiment fort à dev des jeux, tu vois.
Tu es dans un métier passion, alors.
Ouais. Et même si demain je devais quitter la boîte de jeux, je pense pas que je quitterais le monde du jeu. C'est pas du tout dans mes projets, mais je me vois pas faire autre chose que diriger ou... Enfin, ouais, je me vois diriger parce que c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à... Je suis pas très bon salarié, tu vois. Je pense que j'ai besoin d'une vraie implication pour donner le maximum. Et donc, voilà, je me vois pas faire autre chose. Et si le seul truc que je pourrais me voir faire, c'est peut-être essayer. Et je pense même pas que je réussirais vraiment d'être auteur, tu vois. Mais pas beaucoup plus loin.
T'es comme un chef de projet qui porte la chose jusqu'au bout, un peu dans l'ombre, mais qui aime que le projet soit mis en lumière.
Ouais, moi, quand un jeu, il sort, c'est autant mon jeu que celui de l'auteur. Alors, c'est son jeu, je veux pas le... Mais j'ai la même implication émotionnelle, je pense, et des fois plus que certains auteurs qui arrivent à mettre un certain fil pour pas se prendre toutes les critiques et tout ça, parce qu'il peut y avoir une certaine violence. Moi, je prends tout de front. C'est des fois très, très dur, la sortie des jeux. Et même quand ils marchent bien, j'ai beaucoup de mal avec les compliments. Et du coup, ça me met super mal quand les gens ils disent qu'il est bien. Donc s'ils disent qu'il est nul, je l'ai déjà dit plein de fois, mais s'ils disent qu'il est nul, je suis au fond du trou. S'ils disent rien, je suis anxieux. Et s'ils disent qu'il est bien, je suis vraiment mal.
Qu'est-ce qu'on doit dire ?
Moi, j'aime mieux que tu m'en parles pas, voilà. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de critique, tu vois, que vraiment les gens ils jouent, mais que j'apprenne jamais, jamais qu'ils ont joué, quoi.
Le message est passé, ne dites rien à Benoît.
Non, mais c'est... Ouais.
Est-ce que toi, tu veux nous parler d'autres choses ?
Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, voilà, je voudrais quand même remercier tous les auteurs avec qui on travaille, notamment ceux avec qui on a travaillé cette année. Et des fois, des gens qui sont pas très connus ou pas très reconnus. Bah, je pense à Jérémy. Bon, là, j'espère que là, au bout de son quatrième jeu à la boîte de jeu, les gens ont commencé à le connaître. Mais c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. Quentin Guidotti, qui est un auteur. Pour l'instant, il a fait qu'un livre-jeu dans la gamme de Gameflow, mais bientôt vous verrez tous ses jeux et vous verrez tout ce qu'il a fait. Les auteurs de Malia et notamment Nicolas Fouche, avec qui j'ai d'autres projets, qui a travaillé avec moi sur Backstories et qui, je pense, voilà, fait que je voudrais remercier pour tout ce travail, mais toute l'équipe de Malia. Et puis aussi, je voudrais vraiment saluer mon équipe parce que c'est pas toujours simple. La plupart des joueurs, ils les connaissent pas, ils me connaissent moi parce qu'ils me voient en interview, etc. Pour ceux qui me connaissent, il y en a plein qui me connaissent pas et c'est très bien. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens à la boîte de jeu, c'est 7 personnes et sans ces 7 personnes, on pourrait pas faire les jeux. Donc voilà, je veux vraiment les saluer et dire que ils sont hyper importants et qu'en fait, un éditeur, voilà, c'est toute une équipe en fait, c'est pas juste le gars que vous voyez aux interviews parce qu'on. On met un visage.
Merci. Beau message. Merci Benoît de nous avoir accordé un peu de temps. Chères auditrices et chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.